Bon, c'est assez, là, Daniel. On va faire ça par téléphone.
Pas facile le matin. Petit problème de connexion.
Il y a des matins. Mais vive le téléphone, alors allez-y, on vous écoute.
Bon, pas vive le téléphone pour moi, parce que je suis pas bien installé pour ça chez moi, mais bon, je vais essayer.
On vous fait confiance, vous êtes professionnel.
Bon, donc on parle, j'imagine, je vous ai perdu tantôt complètement, là, donc je suppose que vous avez fait jouer la chanson Crazy.
Oui, pour la deuxième fois, je vais vous l'annoncer qu'on a fait jouer Crazy, parfait. Que ça nous donnait envie de partir en road trip et que ça me faisait penser au film de Jean-Marc Vallée, dans lequel on entend la chanson et qui est vraiment importante et qui porte le titre de son film.
Oui, et d'ailleurs, vous avez remarqué, j'ai choisi la version de Willie Nelson parce que c'est lui qui a écrit cette chanson-là.
Ouais.
Mais la version la plus connue, c'est celle qui avait été lancée par Patsy Cline en octobre 1961. Et d'ailleurs, je me souviens d'avoir lu que Patsy Cline ne voulait pas du tout enregistrer cette chanson-là au début.
Ah non?
Elle ne comprenait pas, elle l'aimait pas, elle ne savait pas pourquoi elle devait enregistrer ça. Et c'est là qu'on voit souvent l'importance d'un producteur ou d'un gérant, ou en tout cas
oui.
De l'entourage
d'un
artiste, il y en a qui ont insisté.
Oui, comme pense aussi à My Heart Will Go On, là, Céline Dion ne voulait rien savoir, et puis c'est un de ses succès, sinon le grand succès de Céline Dion.
Oui, donc dans le cas de Patsy Cline, ça a été son plus grand succès. Elle a été connue surtout à cause de cette chanson-là, je pense. Et malheureusement, elle est décédée 2 ans plus tard.
Ah,
donc
oui.
Elle n'a peut-être pas pu profiter de ce succès pendant très longtemps. Donc, on parle de M. Willie Nelson, qui est né le 29 avril 1933. Donc, il va avoir 90 ans.
Oh, bientôt nonagénaire.
Environ un mois.
Oui.
Oui, nonagénaire. Et qui est encore très actif musicalement, donc, parce que je vous dis aujourd'hui qu'il vient de lancer un nouvel album.
Toutes ses dents, toutes ses tresses?
Ben, je pense toutes ses tresses, en tout cas. Je sais pas s'il y a des greffes là-dedans, mais il y en a encore. Donc, Willie Nelson, en plus d'être un auteur, compositeur, interprète, parce qu'on l'a entendu souvent quand même, il a écrit plusieurs chansons pour de nombreux artistes, dont Patsy Cline, dont on vient de parler, et même Roy Orbison à l'époque. Il s'est installé à Nashville dans les années 60, parce que lui, il était né au Texas, à Abbott, au Texas. Il s'est installé à Nashville pendant quelques années. Il avait signé un contrat d'édition. C'est là qu'il a écrit des chansons pour plein de monde. Il est retourné au Texas en 1970. Il a continué à enregistrer. Et en 1974, il a produit, et il était la vedette aussi du premier épisode pilote de l'émission Austin City Limits sur la chaîne PBS. Je ne sais pas si vous connaissez.
Non.
Ça fait plusieurs années que ça existe, une émission qui présente des spectacles, des concerts. On a vu souvent des gars comme Stevie Ray Vaughan et des grands noms comme ça à Austin City Limits. Et Willie Nelson a été le premier. C'est lui qui a parti.
Le pionnier, le premier, oui.
Le premier, le pionnier. Et le grand succès public, ça a commencé surtout, je dirais, en 1975 avec son album Red-Headed Stranger, qui avait été certifié disque d'or. Et ensuite, en 1979, il avait sorti l'album Stardust, qui était, ça, je voulais en parler de celui-là un peu parce que on associe toujours Willie Nelson à la musique country, mais l'album Stardust, c'est un album de chansons des standards américains, un peu jazz, tout ça. Donc, on n'était pas habitué de l'entendre dans ce style de musique-là. Et ça s'est vendu à 4 millions d'exemplaires.
Oh, wow!
Tout pour un album de reprise, c'était quand même assez bien.
Est-ce que vous l'avez déjà écouté, cet album-là?
Seulement en partie.
Parce que je me demandais comment ça sonnait du Willie Nelson quand il chante Stardust.
Effectivement, je pense que c'est pas le genre de voix qu'on s'attend à entendre dans ce genre de musique-là, mais malgré tout ça, on voit qu'il y a eu quand même un grand succès.
Mais c'est un grand interprète, Willie Nelson.
C'est un grand interprète. Je pense que c'est vraiment son âme qui fait qu'on aime bien l'entendre. À partir des années 80, je pense que c'est là qu'il est vraiment devenu connu plus du grand public. En 1980, il a participé à un film qui s'appelait Honeysuckle Rose. Et dans ce film-là, il y avait la chanson On the Road Again. Ça, vraiment, si quelqu'un a jamais entendu On the Road Again de Willie Nelson,
On the road again. Non, non, ça c'est Richard Séguin.
On va l'écouter à la fin.
Oui.
Vous allez vous remettre dedans. Et en 1982, il a lancé Always on My Mind.
Ah, la belle chanson. Ouais, le slow par excellence.
Oui, et son duo avec Julio Iglesias, To All the Girls I've Loved Before. Là, je pense qu'à cette période-là, on l'entendait partout. C'était vraiment Willie Nelson. Là, on savait qui il était. On pouvait l'identifier sur une photo. On connaissait sa voix, on connaissait ses chansons. Et c'est ça, ce qui m'amène à aujourd'hui. Il lance un nouvel album qui s'appelle « I Don't Know a Thing About Love, The Songs of Harland Howard ». Donc ça, c'est pas des chansons de lui. C'est des chansons d'un monsieur qui s'appelle Harland Howard. Qui a écrit plusieurs chansons country. Et on va écouter un extrait pour entendre ce que ça donne.
On le reconnaîtrait parmi, je sais pas moi, 1 milliard de voix.
Je pense que oui, il a une voix assez spéciale. Est-ce que vous avez reconnu la dernière chanson, le dernier extrait?
Non.
C'est la chanson qui a inspiré une chanson très célèbre de René Martel, Un amour qui ne veut pas mourir.
Pour vrai? Ah, vous auriez dû nous avertir, on aurait été encore plus attentifs.
Ben, un petit peu en rétroaction, je veux juste faire remarquer que ce qui comptait beaucoup pour Willie Nelson, pour cet album-là, c'était de respecter, d'essayer de reproduire le son d'ensemble de la musique country des années 60, les enregistrements des années 60. Donc, on entend beaucoup du pedal steel guitar en arrière-plan. Il y a un peu d'harmonica, il y a dans tout. On entend un peu plus sa guitare aussi, son célèbre Trigger. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Trigger, la guitare de Willie Nelson, qu'il avait nommé en l'honneur du cheval de Roy Rogers, qui s'appelait Trigger. Oh, et c'est une vieille guitare classique à cordes de nylon. Il y a des trous dedans et complètement, je dirais, scrap en français, mais il s'en sert encore, personne n'en compte.
Ah oui.
Donc, il l'a utilisé pour cet album-là. Puis on l'entend très bien dans la première chanson, Too Many Rivers. Il fait un solo de guitare avec.
Il y a la voix qui chevrotte, mais ça reste encore très, très bon.
Oui, pour quand même, pour une personne de 89 ans, on sent qu'il y a encore la forme.
Oui, oui.
Et donc, pour parler d'un peu ce monsieur-là, Harland Howard, pour lequel on a produit cet album-là, il était né le 8 septembre 1927 à Détroit, au Michigan. Et il est décédé, malheureusement, le 3 mars 2002 à Nashville, au Tennessee. Et sa carrière s'est échelonnée sur 6 décennies, donc pendant une soixantaine d'années. Il a écrit des chansons pour d'autres interprètes.
La retraite, ils ne connaissent pas ça, eux.
Non. C'est quelque chose... Je pense que les artistes, en général, peut-être qu'ils peuvent ralentir, ils peuvent arrêter même de faire de la scène à un certain moment, mais arrêter, être
jamais
inactif, c'est impossible.
Non. J'entendais Robert Charlebois dire récemment, je pense qu'il est en France de ces temps-ci, je vais arrêter, c'est la vie qui va décider quand je vais arrêter.
Oui, c'est pas un choix. Ben, effectivement, quand on arrête, c'est parce que c'est pas un choix. C'est quelque chose qui se présente. Donc, ce monsieur-là avait écrit des chansons lui aussi pour Patsy Cline, Charlie Rich, Ray Charles, Johnny Cash. Il aurait composé plus de 4000 chansons dans sa carrière, dont 100 qui se sont placées dans le top 10 de musique country. Donc, je pense que ça méritait bien un honneur de la part d'un monsieur comme Willie Nelson.
Absolument.
Il a été intronisé en 1973 au Nashville Songwriters Hall of Fame et en 1997 au Country Music Hall of Fame. Donc, c'est un nom que moi-même, je ne connaissais pas, mais je vois que ça valait la peine qu'on le connaisse.
Ouais.
Donc, notre monsieur Willie Nelson, qui vient de lancer cet album-là, si je continue un peu sa carrière, en 1985, il avait participé à l'organisation du premier concert bénéfice Farm Aid, qui venait en aide aux fermiers aux États-Unis, qui étaient en difficulté financière. Et depuis cette époque-là, ce festival-là a lieu chaque année, puis lui, il participe, il est tout le temps là, il est toujours présent. Et en 1990, il a eu des gros problèmes avec le fisc américain. Ça serait, ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire de Willie Nelson, il a écrit sa biographie. C'est assez intéressant quand il raconte tout ça.
Ah, c'est lui qui a écrit sa propre bio?
Ben, je sais pas si c'est une autobiographie ou si c'est quelqu'un, je me souviens pas, qui l'a écrit pour lui, mais en 2015, il avait publié, c'était une deuxième biographie, en fait, qui s'appelait, qui avait pour titre « It's a long story, my life ». Je ne sais pas si ça a été traduit en français, par exemple. Je ne pourrais pas vous jurer ça. Mais moi, je l'avais lu en anglais. Et c'est ça, c'est intéressant de voir que en 1990, tous ces actifs ont été saisis par le International Revenue Service, le fisc américain, parce que ils ne payaient pas ces impôts depuis plusieurs années. En fait, c'est ces comptables, ces artistes-là, en général, hein, sont assez occupés, puis et tous ces travaux-là, ils donnent ça à des entreprises, des firmes comptables, tout ça. Et là, apparemment, sa firme comptable qui s'en occupait n'avait pas payé ses impôts depuis plusieurs années. Okay. Donc, le fisc américain lui réclamait 16 millions de dollars US.
Hey, Willie Nelson, il est en partie responsable parce qu'il n'a pas vu à ses affaires, mais en même temps, il avait mis ses affaires entre les mains de personnes irresponsables.
Quand on donne un contrat à des personnes comme ça, on s'attend à ce qu'ils s'en occupent.
Ouais.
Bon, donc, je ne veux pas enlever complètement le blâme, mais là, il s'est retrouvé avec une dette qu'il n'était pas capable de rembourser parce que dans les dernières années, au courant des années 80, il avait fait beaucoup de mauvais placements. Encore là, il avait été mal conseillé. Il a mis beaucoup d'argent dans des placements qui finalement, il a à peu près tout perdu.
Ça me fait penser un peu à l'histoire de Leonard Cohen, là, qui s'est fait avoir, lui aussi.
Ben oui, ils se font souvent avoir, ces artistes-là, malheureusement. Donc, rapidement, parce que là, je vois
qu'il reste une minute.
Il a lancé un album seul à la guitare pour essayer de ramasser un peu d'argent. Il a réussi à ramasser 3,6 millions de dollars avec ça, qu'il a remis au fisc. Ensuite, ses actifs ont été vendus à l'encan, mais apparemment, ses fans auraient retourné les choses qu'ils ont achetées.
Ah oui?
Donc, il réussit à s'en sortir de cette façon-là.
Ah, ses fans, ce sont des vrais.
Ouais, ben là, je trouve que ça, c'est une histoire assez impressionnante.
Ah oui. Alors, Daniel, est-ce que vous pensez que c'est pour l'argent qu'il nous propose cet album-là?
Ça m'étonnerait.
Ouais, c'est pas
le genre. Il en a fait tellement que c'est son 73e album, apparemment.
Ah oui. On va écouter donc On the Road Again, dont vous nous parliez tantôt.
Je pense que c'est sa chanson signature aussi.
Ça sera après la pause. Merci beaucoup, Daniel. Merci aussi, Serge et Isabelle. On se retrouve mercredi prochain.
Oui.
À bientôt.
Oui, à la prochaine. Bye-bye.
Donc, nous allons écouter tel que promis On the Road Again par Willie Nelson après la pause. Et il y aura les paractualités, une chronique théâtre. Restez là.